émission de Radio G. De 19h à 20h, offre-toi un peu de bonheur.
Bonsoir et bienvenue dans mon tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel sur le site radio-g.fr. 23e émission en direct et dernière émission classique de DMT avec la spéciale du 25 juin qui sera la dernière, puisque DMT ne reprend pas la saison prochaine. On aura le temps de pleurer, mais pour l'instant, on va encore profiter des chroniques de ce soir avec Joe qui réalise cette émission. Bonsoir Joe.
Bonsoir Bruno.
Avec Sandra qui devrait arriver dans incessamment sous peu, puis avec Olivier.
Oui, bonsoir.
Ouais, tu fais bien Sandra, ouais. Mmh. Et puis avec Manu. Bonsoir Manu.
Bonsoir.
Oui, on n'est pas nombreux. Hein. Je pense que les autres ne sont pas remis du vote de dimanche. Hein. Voilà. Du coup, on a pris des émigrés avec Manu justement qui vient du Luxembourg. Hein. Tu as un siège ici, hein, parce qu'au Parlement, le Luxembourg en a 6, hein, je crois, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est ça. Allez, en parlant de vote, on vous rappelle que de chez vous, vous pouvez réagir en direct sur l'émission. Il vous suffit d'aller sur le site de radio-g.fr pour voter ou nous parler. On vous voit en direct. Allez, ouvrons nos tiroirs. Bienvenue dans DMT. Allez, comme ils ont leur petit jingle maintenant, ça va être bien. On va commencer par le tiroir de Joe. Ah, les rimes en haut, hein, c'est formidable.
Oh oui, c'est formidable. Eh ben, écoutez, moi, dans mon tiroir, je vous ai trouvé du Tabasco.
Ah oui? D'accord.
Je demande où je vais.
Non, c'est vrai. En plus, il a une vraie bouteille de Tabasco.
J'ai vraiment ramené du Tabasco. Je suis retourné chez moi juste pour ça. J'ai fait me mettre en retard dans l'émission juste pour cette vanne.
Avoir des Tabasco, d'accord.
Non, j'en avais vraiment chez moi. Bref, on s'en fout. Alors, effectivement, Bruno nous a demandé de préparer des chroniques en rapport avec les européennes, ce que je n'ai pas du tout fait. Donc, du coup, je vais vous parler.
Je crois que personne autour de la table l'a fait.
C'est vrai, en même temps,
si un petit peu.
En même temps, c'était pas nécessairement évident de faire du tout public, on va dire. Et non, le Tabasco m'a fait penser à une émission qui s'appelle Hot Ones. Est-ce que vous connaissez?
C'est là où il y a avec les épices là.
Ouais, il y a des sauces piquantes.
Mais c'est une émission sur internet.
Alors, c'est les deux. Donc en fait, c'est une émission de base américaine qui est présentée par Sean Evan depuis 2015. Donc lui, il le faisait sur YouTube principalement et ça a été récupéré par les Français en 2022. Et c'est produit par notamment Studio Bagel et c'est Kian Kojandi qui présente. Donc c'était celui qui faisait Bref pour ceux qui suivent plus trop. C'est produit aussi par Canal+. Donc c'est et sur Canal+ et sur YouTube en même temps.
D'accord.
Donc vous avez tous les épisodes qui sont dispo sur les deux. Et donc le principe est assez simple. On invite une personnalité pour faire souvent la promo d'un spectacle, d'un film, de quelque chose. Et la personne doit répondre à 10 questions. Avec à chaque fois une sauce piquante à goûter. C'est-à-dire qu'ils ont des tenders ou des wings de poulet devant eux. On leur met des sauces piquantes dessus. Ouais. Et ils doivent, ils la mangent et ils répondent à des questions. Alors, au début, ça va. C'est, il y a un petit côté relevé, etc. Quoique ça dépend. Il y en a qui sont très habitués au piment. Il y en a qui en ont presque jamais mangé de leur vie. Et tu vois les langues se délier au fur et à mesure parce que Kian Kojandi, qui présente, dit souvent que ça a un effet un petit peu sérum de vérité, en fait. Mmh. Parce que, en fait, comme tu vas être en galère, tu vas écouter ce que l'autre te dit, mais à moitié, en fait, tu vas beaucoup plus te lâcher et les personnes sont vraiment en train de, la plupart du temps, tu les vois subir. Vraiment, tu les vois subir l'émission. Ouais, non, j'écoute pas ce que tu dis. C'est très très drôle, donc évidemment ils ont.
Ça va toujours crescendo.
Ouais, ça va de plus en plus haut. Ils ont la première sauce, elle est à 1700 sur l'échelle de Scoville. Alors pour ceux qui connaissent, c'est l'échelle pour mesurer le taux de piment et de piquant de quelque chose. Et ça va jusqu'à 1 500 000, voilà. Donc ce qui est juste énorme. Et
celui que t'as autour du cou, il est à combien celui-là?
Moi, c'est un piment d'Espelette, donc c'est vraiment très très bas.
Très, très bas.
Mais voilà, en soi, les sauces ont l'air bonnes en soi parce que c'est des très bonnes sauces qui font, mais par contre c'est extrêmement piquant au bout d'un moment et jusqu'au bout il y a un moment ils disent alors à partir de ce moment-là les sauces sont directement sur les tenders, c'est pas eux qui les mettent et ne vous mettez pas les doigts dans les yeux. Faudrait que ça peut vraiment te brûler sa race au niveau des.
Mais c'est normal. Mais ils ont le droit à boire du lait ou de l'eau.
Alors justement, en fait, ils ont à côté des petits bonus entre guillemets. Donc il y a de l'eau fraîche, il y a du lait, il y a un mélange de citron et de lait, je crois, pour vraiment éteindre le feu dans ta bouche. Il y a plein de trucs comme ça. Et il y en a certains qui en prennent un petit peu, genre qui prennent du miel vite fait. Et il y en a, mais ils ont plus aucune dignité. Vraiment, tu le vois, ils se vident les trucs dans la bouche en mode je suis en train de mourir, en train de cramer. C'est très très drôle, franchement, ça rend quelque chose de très sympa.
Il doit avoir des lendemains difficiles quand même.
Ouais, parce qu'il y a pas mal de fois où ils disent que ça brûle un petit peu au niveau de l'estomac. Mais bon, ça reste une façon assez intime de promouvoir son truc, parce que tu as plus une personne qui répond à des questions, t'as quelqu'un qui est en train de subir et de suivre l'émission. Mais ils ont vraiment mis une ambiance assez sobre, assez cool, parce que ils sont juste autour d'une table les deux, et autour d'eux tout est noir. C'est vraiment très intimiste, et franchement ça rend très très bien. Ils ont eu des invités comme Jonathan Cohen, Alexandre Astier, Léna Situation, Pierre Ninet, voilà. Donc ils ont vraiment de tout, et le but c'est vraiment ça, de faire une émission de divertissement.
Et toi tu le ferais, toi?
Franchement, moi j'aimerais beaucoup. Je pense que j'aurais beaucoup de mal, mais j'aimerais beaucoup le faire. Et moi je compte le faire en soirée avec des potes, où je vais prendre des trucs comme ça. Mais c'est génial à faire.
Alors tu nous invites pas déjà?
Non mais je dis pas que ça c'est simple, mais je dis que ça peut être drôle à faire. Après tu fais pas n'importe quoi, le but c'est pas d'exploser le bide, mais ça peut être assez marrant, je pense.
D'accord. Olivier, tu le ferais, toi?
Ah, je me rappelle tellement avoir goûté le cocktail Bloody Mary.
Ouais.
Et j'avais commencé par le piment. Pendant une heure, j'étais.
Ah ouais, ça avait explosé.
Ah, tu prends pas du tout de pimenté.
Je suis pas habitué, quoi.
Alors, au Luxembourg, ils aiment bien épicer. Moi, j'y suis allé, vous épicez beaucoup.
Ah, la cuisine est très épicée au Luxembourg?
Il est rentré dans un restaurant mexicain.
C'est vrai qu'ils n'ont pas de spécialité. C'est un petit peu tout. Non, mais ouais, ça mange beaucoup épicé. Toi, tu manges beaucoup épicé, toi, entre autres. Non, pas, non, t'aimes pas
trop? Non, les demi-infos de Bruno.
Fake news,
d'accord, ok. Et alors, est-ce que
tu. Et Sandra?
Non, je pense
pas du tout.
Pas d'épices.
Ah, parce que, non, pareil, ça me brûle et puis c'est fini. Quoi.
Personne mange épicé autour de la table. C'est dingue, ça.
Bruno encore moins.
Léger.
Oui, léger, mais on parle pas de gens qui prennent.
Je suis sûr que, si, non, il dit qu'il ne mange pas épicé, mais plus que. Il y a une version qui est avec l'alcool aussi, avec Monsieur Poulpe. Hein,
alors, oui, sûrement, comme je suis pas très fan d'alcool, j'aime beaucoup Monsieur Poulpe, mais je sais, oui, je crois qu'il est, effectivement, il avait fait.
Café scandale, un petit peu, évidemment, mais ils finissent complètement également.
Mais en tout cas. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et sur Canal+, si ça vous intéresse.
Eh ben 100%, allez, hop.
C'était vraiment très intéressant.
Elle est de retour, elle est arrivée. Voici Sandra et son jingle.
Sandra, sur elle nous surprendra.
Allez, encore une rime riche. On parle de quoi ce soir?
Eh bien, les épices, justement, ça fait pleurer.
Ah,
donc,
oui.
Dimanche soir, je pense que beaucoup de monde un objet qui peut... Un objet qui, voilà, suite aux résultats, on va dire.
On a pleuré, c'est ça. Certaines personnes ont pleuré.
Ouais. Okay. Certaines personnes ont dû pleurer. Et du coup, je vais vous parler du mouchoir.
Pas mal, belle transition. Ouais, c'est pas mal.
Ça va. Ouais. Donc le mouchoir, il existe. Alors le mouchoir, en fait, il existait déjà du temps des Romains, mais il n'avait pas la même utilisation que maintenant. C'est-à-dire, c'était pas pour pleurer, pour essuyer nos larmes ou pour le rhume, tout simplement. C'était, il servait à agiter. On agitait un bout de tissu, en fait, pour les départs de courses de chars.
D'accord.
Vous savez, pour encourager dans les arènes, les jeux là. Du coup, tout le monde levait son mouchoir comme maintenant on lève nos briquets dans les concerts, c'est un peu ça.
Ah d'accord, c'était
les flacons. Enfin, c'est pas nos briquets, c'était les briquets. Et les serviettes.
Non, c'est autre chose.
Plutôt les portables maintenant, la lumière des portables. Et là-bas, voilà.
C'était les mouchoirs.
Du temps de Rome, c'était les mouchoirs, voilà.
Ok.
Au Moyen-Âge, on s'en servait de porte-monnaie, vous savez, comme les petites bourses, là, on mettait notre monnaie dedans.
Mais ça s'appelait pas mouchoir, du coup.
Bah non, c'était un tissu, mais c'était pas vraiment le mouchoir.
Et on se mouchait comment, comme ça, en
fait? Avec les doigts.
Tu retirais toutes tes pièces, et tu te mouchais, et puis tu remettais les pièces dans la morve.
On bouchait la narine.
Non, parce que le mouchoir c'était pas son utilisation première.
D'accord. Ah, d'accord. En fait, c'était même pas un mouchoir. C'était juste un accessoire qui servait, et pour, mettre l'ambiance, apparemment, et pour, d'accord.
En fait, on se mouchait avec le bras, quoi, tu vois.
Bah oui. Aujourd'hui, il y en a encore qui le font. Hein.
Ouais, c'est un terrain de foot. Ouais.
Et du coup, le mouchoir tel qu'on le connaît maintenant, on va dire, bout de tissu, quoi, a été inventé au XVIe siècle par une vénitienne qui eut l'idée de border un bout de tissu en lin avec de la dentelle. Et c'est le roi Louis XVI qui a créé un décret sur la forme même du mouchoir qui se devait d'être carré.
Ah oui, d'accord.
Et il est carré, en fait. Oui, et du coup,
alors, je pense que c'est.
Ouais, mais en lin.
Pour la forme.
En lin, ça devait quand même te latter quand même le nez, quand même.
Le lin?
Le lin, c'est quand même assez.
En fait, c'est pareil. C'était.
On est vraiment en train de
pas vraiment encore pour vraiment se moucher non plus. Enfin, il y avait un petit peu de ça, mais c'était pas le but.
Pour s'essuyer,
premier.
Ah, c'est plus les larmes, c'est les trucs ça. Comme ça. Ah oui, d'accord, mais c'est.
Ouais.
C'est comme c'était le roi, c'est peut-être un petit peu classe, entre guillemets.
C'est ça. Ça servait, en fait, le mouchoir, servait un peu à se moucher, mais c'était pas seulement pour ça, en fait. C'était surtout pour, l'avoir un peu dans sa poche, comme ça.
Ah oui, c'est un accessoire.
Voilà, un accessoire, ça.
Déjà qu'on se torchait pas à l'époque, alors.
C'est vrai qu'il y avait l'hygiène, mais c'était pas,
tu l'as toujours sur les costumes. Sur les, hein?
Quoi,
le costume, ouais, un petit mouchoir,
oui,
ouais, petit mouchoir, aussi, ouais.
Oui, voilà, c'est ça, il y a un petit, enfin, je sais pas si ça se fait encore, mais bon. Ouais.
Si. Oh, si, c'est une petite culotte, à un moment donné.
Oula. C'est pas les mêmes soirées.
Non, c'est pas les mêmes soirées.
Il sert à la cérémonie d'adieu aussi sur les quais de.
Ah oui, on jette le mouchoir.
Voilà, à la gare.
C'est très symbolique.
Ou en guerre aussi, quand on dit.
Oui, voilà.
Mouchoir blanc, là.
Un drapeau blanc.
Ah oui, tu as raison.
C'est un petit.
Ouais, tu as raison.
T'as pas forcément un drapeau avec toi, donc du coup, c'est ton mouchoir que t'agites en disant ne tirez plus, ne tirez plus.
J'y ai pas pensé, c'est vrai. Ouais.
Tu as agité ton mouchoir pendant la guerre, Bruno.
C'est ça. Oh, attention, t'es 25%.
On mettait un peu haut de Cologne pour affronter les mauvaises odeurs de la rue, etc. On le donnait à une personne en larmes et un mouchoir prêté ne se rend pas. Voilà.
Ouais,
et en général. Donc en fait, le mouchoir, il a un rôle social. Il n'est au début attribué qu'à la classe bourgeoise.
Oui, ouais,
voilà.
Oui.
Donc il y a un langage du mouchoir aussi, un langage amoureux, tout simplement. La femme qui jette son mouchoir par la fenêtre, à l'époque, lance un rendez-vous amoureux, en fait, à quelqu'un.
D'accord, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi.
Quelqu'un qui ramasse le mouchoir.
Si son dit, ça ramasser, ça va être.
Voilà.
D'accord, ok. Ah, oui, d'accord, jette par la fenêtre. Bon, pourquoi pas.
Non, ou si c'était dans la rue et puis qu'elle avait remarqué quelqu'un, elle le jette par terre.
D'accord.
Et puis du coup, il fallait que la personne.
Vous avez fait
en question,
tomber votre mouchoir.
Oui, il y a ça aussi.
Accepte de ramasser son mouchoir.
Même sans la fenêtre, il y a aussi, tu laisses tomber. Ça aussi.
Je pense que c'est ça, c'est le symbole.
Elle laisse tomber son mouchoir en marchant.
J'ai toujours le beau gosse.
Et elle attend que le beau lui ramasse, lui le donne. Vous avez oublié votre mouchoir.
Votre mouchoir.
C'est ça.
Merci.
Oh, dis donc. Oh, t'as de l'expérience.
Ok. Voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir un chien pour aller faire des rencontres.
Non, vous savez, je sais pas comment ça se connecte dans le cerveau de Sandra, mais
excusez-moi.
C'est pas grave.
Vous avez fait tomber votre berger allemand.
Vous avez fait tomber votre chien.
Non, mais c'est pas ça.
C'est pour les techniques de drague.
Tu te promènes avec ton chien.
D'accord.
Avec
sauf que là, on parle du mouchoir.
C'est ça.
Oui, alors donc, je voulais parler de l'industrie du mouchoir débute vraiment au XVIIe siècle à Cholet. Et la capitale du mouchoir, évidemment.
Alors que c'est italien de base. Ah ouais, d'accord.
Non, mais tu veux dire à l'international, c'était Cholet?
Non, ou en France?
À l'international, non, en France.
En France,
ouais. J'ai pas vu à l'international, ouais.
Alors, avec vraiment un type de mouchoir spécifique. Enfin, la couleur blanche. Bah,
voilà,
blanche.
C'est ça. Oui. Donc, le célèbre mouchoir de Cholet, blanc et rouge, il est inventé en 1900 par l'industriel Léon Marais, qui en envoie à Théodore Botrel, alors c'est un chanteur, qui chante à ce moment-là le mouchoir rouge de Cholet.
Et en fait, il lui.
Ouais, pas mal.
Ouais, en fait, il distribue ses mouchoirs. Oui, il lui envoie. Et puis, du coup, l'idée, c'était qu'il distribue à chaque fois lors de ses chansons, quoi.
D'accord.
Et c'est comme ça que, effectivement, le mouchoir rouge et blanc est devenu célèbre.
D'accord.
Et donc, le rouge, ça représentait le symbole du sang des Vendéens et le blanc, celui de la royauté.
Ouais. Bah, ouais, super, te moucher là-dedans.
Ouais.
En même temps, c'est Cholet.
Bon.
Mouchoir sans
Je sens la critique.
Les blagues politiques, on évite, mais alors, tirer sur Cholet, il n'y a pas de souci.
Ah, je suis Choletais.
Mais il est Choletais.
Ah oui,
d'accord.
Il n'y avait pas un Cholet au Luxembourg, il n'y a pas un Cholet où on fait des mouchoirs spécifiques? Non,
je ne connaissais pas ces mouchoirs, non.
Non, on a déjà un Cholet, ça suffit.
Ouais. Moi, j'ai toujours eu des mouchoirs en tissu comme ça quand j'étais gamin.
T'en as eu, oui.
Toujours eu des mouchoirs.
Des rouges et blancs aussi.
Ouais.
C'est vraiment un truc de la ville. Je ne connaissais pas.
Alors évidemment, les mouchoirs en papier font leur apparition en 1924 avec les Kleenex. Et la pub, c'était ne portez pas un rhume dans votre poche.
C'est pas mal.
Déjà à l'époque, ils avaient compris que le mouchoir, c'était une vraie.
Donc
celui en papier, il est plus hygiénique puisqu'on l'utilise qu'une fois, qu'il est jetable et il est biodégradable en 3 mois d'ailleurs.
Ah oui, chose que je ne savais pas.
Ah,
mais c'est bon.
Moi, ça dépend des mouchoirs, j'imagine, mais
ceux qui conservent.
Si déjà à l'époque, c'était dans le cahier des charges, t'imagines aujourd'hui ceux d'aujourd'hui.
Mais en fait, finalement, ça n'existe
papier,
entre guillemets, ça n'existe plus les mouchoirs pour se moucher en tissu. Non, mais en tissu.
Bien chez ma grand-mère.
Ah si, justement.
Alors peut-être l'ancienne génération.
Ah si, ça revient à la mode, par contre.
Pour se moucher dans des mouchoirs.
Après, oui, parce que
aujourd'hui, après le Covid, ça peut revenir à la mode le mouchoir en tissu. Comment c'est possible?
C'est pas du tout hygiénique.
Oui, mais en fait, il y a aussi le côté un peu écologique, en fait. Parce qu'en fait, à la fois, c'est biodégradable, mais à la fois, on se dit que...
Bon, t'en as 15 dans les poches, et puis tu le nettoies, voilà, c'est mieux que de jeter. Je vois le côté écologique.
C'est à cause du côté écologique que tout ce qui est tissu, maintenant, ça revient à la mode, quoi. Donc les mouchoirs aussi.
Mais bon, on se remet quand même du miasme.
Je sais pas, parce que tu les laves régulièrement, donc ça consomme de l'eau aussi.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais. Mais je croyais que c'était tombé en déshabitude. Donc, il y a encore.
Non, c'est... Okay.
Oui, moi, j'en ai plus, hein, les mouchoirs en papier.
Non, parce qu'il y en a qui se refont. D'ailleurs, il y a des nouvelles inventions qui s'appellent le Anki Book. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas non plus, d'ailleurs.
Anki Book.
C'est un petit livre, justement, en forme. Il y a plusieurs feuilles et ça fait un livre de mouchoirs. C'est un peu spécial, mais enfin, bon, là, je ne peux même pas le décrire.
Mais c'est pour collectionner les mouchoirs ou c'est pour s'en servir?
Non, c'est pour s'en servir, celui-là.
D'accord. Ok.
Mais effectivement, j'allais terminer par certains collectionnent les mouchoirs quand même.
Ah, bah,
et les mouchoirs d'antan, c'est lesquels, selon vous?
Mouchoirs d'antan?
Bah ouais,
des mouchoirs.
Des mouchoirs.
Enfin, ceux qui sont collectionnés en général.
Ceux
en dentelle et blanc, c'est les plus chers.
Ceux de Régine. Non, c'était les petits papiers, pardon.
Je voulais dire les petits mouchoirs, justement.
Les petits mouchoirs, c'est le film.
Je faire une
c'est dommage parce que je voulais en ramener, puis j'ai pas.
Mais ils étaient sales.
Non, mais oui, voilà. C'était pas grave.
C'est les mouchoirs vintage publicitaires. Avec de jolies illustrations ou liées au dessin animé.
Oui,
donc, ceux avec.
Je dis à Manu, collectionne
Candy, Lucky Luke.
Tous
les grands tiroirs.
Ah, ben là, des grands tiroirs.
Et donc, j'en ai.
Quelquefois, sur les mouchoirs, tu mettais tes initiales. Enfin, les familles mettaient leur...
C'est vrai, oui.
D'ailleurs, c'était, je pense, publicitaire. Enfin, dans les années 60-70, voilà, c'est...
Donc toi, est-ce que tu utilises encore des mouchoirs...
Non, je les utilise pas, mais je collectionne ceux avec les dessins animés.
Bah, voilà.
Donc, dès que j'en vois, je les prends. Et voilà, les prix, ça varie entre 10 et 20 euros le mouchoir. Quand même,
oui, ça devient la collecte, ça, ouais.
Mais je les achète pas à ce prix-là, évidemment. Donc,
oui. Olivier, tu utilises des mouchoirs papier ou
quand même.
Papier.
Ah, je ne me mouche jamais. Jamais le message.
Je suis jamais en rébellion.
Et Luxembourg, on est en papier ou en tissu?
Tu rigoles? Ben non, on est aussi au papier. Mais par exemple, pour avoir été en Chine, le mouchoir, c'est absolument dégoûtant pour eux.
Ah oui, d'accord.
Lequel, papier ou tous?
Ils
se mouchent pas.
D'accord.
Alors, comment ils font? Pareil, tu sais pas.
C'est très choquant. C'est genre même ces dames reniflent et crachent dans la rue.
Ah, c'est
le mouchoir est vraiment quelque chose de, au point de vue hygiène, de dégoûtant pour.
Ah, c'est dingue. Comment culturellement ça peut changer totalement. Nous, on verrait quelqu'un renifler et cracher dans la rue, tu dirais c'est dégueulasse. Mais eux, ce serait plus.
Alors du coup, je termine par ma petite phrase.
Oui, bien
donc,
sûr.
Je lève mon verre et mon mouchoir à l'émission dans mon tiroir. C'est juste un au revoir.
Oh, c'est joli.
Oh. Allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant.
Ouais, 25%, c'est bon, tu y es, allez, ça s'est passé, c'est bon. Allez, on va parler un peu d'Europe, mais d'Europe, on va s'amuser un petit peu avec l'Europe. On va voir, voici la chronique d'Olivier.
Olivier, c'est la chronique d'Olivier. Olivier, il va sans doute parler ciné.
Eh ben non, même pas ciné ce soir.
Non, pour une fois. J'ai retrouvé quand même un billet d'entrée pour le parc Europa Park, le parc d'attractions Europa Park, qui est un des plus gros parcs d'attractions d'Europe et un des plus visités aussi en Europe. Hein, je pense que c'est le deuxième plus visité. Il a même été élu entre 2014 et 2022 meilleur parc de loisirs du monde.
Ah, carrément.
Oui, carrément.
Ah ouais.
Alors, il est situé à Rust en Allemagne, pas loin de Strasbourg. C'est entre Colmar et Strasbourg, mais sur la rive donc du Rhin.
Donc côté Allemagne.
De côté d'accord. Allemagne, mais vraiment pas loin de la frontière. Alors, si on fait un peu d'historique, ça remonte quand même à très très longtemps. D'après vous, c'est quand est-ce qu'il a été créé ce parc?
Oula, Manu, une idée du parc? Non. Dans les années 70?
Alors 80. Oui, bien, en 1975.
15, d'accord, oui.
Alors, on va remonter au fin du XVIIIe siècle quand même, avec la famille Mack, la compagnie Mack. En fait, ils construisaient des chariots, des roulottes pour les spectacles. Et puis, petit à petit, 18e, 19e, et en 1920, ils construisent les premières montagnes russes pour des fêtes foraines. Donc voilà, ils exportaient, ils vendaient des montagnes russes à des forains.
Mm-hmm.
Et puis, la famille Mack a eu l'idée en 1975, eh bien en fait, de créer un parc d'attractions pour essentiellement mettre en valeur leur savoir-faire en termes de montagnes russes.
Ah oui, c'est
plutôt
leur vitrine.
La vitrine des montagnes russes. Alors à l'origine, ils avaient choisi de s'installer, alors pas à Rust, mais dans la ville de Breisach am Rhein, donc le vieux Brissac en français, où il y avait un lac à côté qui s'appelait Europa Sea. Et donc, mais par contre, le terrain était inondable. Mais ils ont gardé cette idée d'Europe. Et donc, en fait, ils ont intitulé leur parc Europa Park.
Ils auraient dû faire un aquapark.
Ouais, bah, ils en ont fait un maintenant. Mais ça.
C'est vrai.
Faut attendre 7 ans pour qu'ils retrouvent enfin un thème. Ils ont l'idée, bah, tiens, en fait, on s'appelle Europa Park. Pourquoi, au final, on ferait pas des zones d'animation en référence à des pays européens?
Ah, tu veux dire qu'au début, il n'y avait pas de thème?
Il n'y avait pas du tout de thème.
Juste
non,
c'est fallu c'est attendre... comme ça aujourd'hui, Europa Park?
Oui, oui.
C'est je connais pas du tout, mais je sais que c'est un gros truc, mais je connaissais pas le thème.
Alors, c'est le principe d'Europa Park, c'est t'as à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de zones par pays. Ce sont tous les pays européens.
D'accord.
Donc le premier, c'était l'Italie. C'est vrai que c'est assez vieillot quand on visite sur Europa Park la zone italienne. Par exemple, en Grèce, il a reconstitué un temple, l'Acropole. Ouais. En Islande, on voit plein de petites maisons de pêcheurs, de phares.
D'accord.
En France,
le Moulin Rouge.
Il y a le Moulin Rouge. Ouais. Et puis, c'est beaucoup aussi de bâtiments haussmanniens, comme à Paris et tout. Toujours une petite référence. En Espagne, on a aussi des arènes et tout. Enfin, c'est voilà. Donc, okay. Italie en 82, premier. Et puis après, ils se spécialisent dans les montagnes russes. À l'heure actuelle, il y a 14 circuits de montagnes russes. Ah ouais. Donc, alors autant dire que moi, on a les pires, on les a pas faites. 84.
Alors, tu dis on oui, pour nous, mais après. Manu l'a fait. Hein.
Alors, on va en parler juste après. 84, c'est le Alpen Express Enzian qui existe toujours. En 2000, c'est la première montagne russe aquatique, le Poséidon. Ça, on l'a fait. On a bien été zouillé. Hein. C'était très, très, très fun. En 2002, voilà. Alors, le Silver Star. Manu, tu vas nous en parler dans deux minutes. Pour info, on monte jusqu'à 73 mètres de hauteur. Et après, on plonge avec des pointes de 120 km/h. Le circuit fait 1620 mètres et il y a une puissance de 4G quand même, qui est assez impressionnante. Je crois que Manu, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Alors, tes impressions?
L'année dernière. Oui, ça va très vite. Bon, vaut mieux pas y aller avec les lunettes, hein, parce que ouais. Sinon, je les retrouve quoi.
T'as pas le vertige quand t'es là-haut? C'est quand même super.
Ah, bah, c'est souvent comme, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je monte sur ce genre d'attraction, c'est. T'entends le clac 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 clac, clac, clac. Et quand t'es en des qu'est-ce que je fous là,
j'aurais jamais justement là de descendre. Ah ouais, c'est exactement. Tellement génial.
Et là tu hurles là. Mais après ça dépend, parce qu'il y a différents types. Ça c'est un vraiment pour la rapidité. Ouais. Donc là vraiment on prend vraiment des accélérations de fou.
C'est un des plus rapides, une vitesse les plus rapides. Ouais. En 2010 il y a le Vodan Timber Coaster. Alors Vodan c'est dans la partie scandinave islandaise. Mm-hmm. Là c'est vraiment un grand 8 mais que en bois. Je crois qu'il y a des millions de vis et tout. Il est extraordinaire. Il y a des statues de dieux scandinaves qui est assez impressionnant. Vodan c'est Odin en fait en germanique. Mm-hmm. Donc vraiment impressionnant. En 2024 est sorti Voltron. Donc là, alors je vous lis le texte. Propulsion centre verticale à 32 mètres de hauteur, 7 inversions, 21 virages, des retours en arrière, et surtout 2 secondes et demie d'apesanteur, de sentiment d'apesanteur.
De airtime où t'as
airtime, ouais. Quand t'es en haut de la colline et que, tu décolles de ton siège.
Ça doit être quand même quelque chose.
Ah ouais, mais t'es pas trop fan des.
Si, j'aime bien, mais là, la pesanteur, tout ce qui est en hauteur ou apesanteur, j'aime moins.
Ah ouais. Alors, tout ça qu'on vous a dit, on vous a pas fait, hein. Je pense que les 4-5 plus gros, on l'a pas fait, on a fait le reste, hein.
Les gars, Ah ouais,
on a fait 12 déjà.
On a fait 12, faut remplir la journée.
On a fait une quinzaine d'attractions, quand même.
Ouais.
Oui, entre Arthur, French Club.
Il y en a qu'on a fait plusieurs fois.
Et tout, dans cette
chouette. C'est là-bas que vous allez faire.
On a fait un reportage exprès là-bas.
C'est là-bas ?
Oui,
là-bas.
Pour le travail.
Bien sûr, c'est pour le travail qu'ils y sont allés, hein, uniquement.
Les petites brèves aussi, la mascotte d'Europa Park, c'est une petite souris. Et en fait, ça, c'est une référence à Wild Mouse. Alors, en fait, c'était le manège préféré des Mac, la famille Mac. Donc qui a créé Europa Park.
Ouais, Europa Park.
Le type de montagne russe qui s'appelle Wild Mouse, vous savez, c'est les. On est dans des petites nacelles et puis ça va super vite et puis
ça tourne un petit peu.
Ça fait très très mal au dos, n'est-ce pas Bruno?
Bah c'est
ça
Mir,
fait très
ouais.
Mal, ouais. Mir notamment. Dans la zone russe, il y a Mir en fait. C'est pareil, ça, c'est un grand 8. Récemment, en 2019, donc faut toujours innover. Ils ont créé à quelques peut-être 1 kilomètre ou 2 de Europa Park un parc aquatique. Roulantica, ça s'appelle. Voilà, avec des toboggans extraordinaires. Alors moi j'ai testé, j'ai adoré faire ça, Roulantica.
Tu as peut-être testé déjà ils sont verticaux, tu sais, tu te mets dessus, t'as une trappe et pouf, la trappe s'ouvre et tu tombes.
Et on tombe à la verticale.
Non, moi j'ai fait des trucs, mais en France, le parc Astérix, qui pour moi c'est génial, mais alors, des trucs où tu tombes d'un coup, si les trucs genre de la Tour de la Terreur, où tu vas tout en haut,
c'est un toboggan. Mais là, c'est un toboggan, tu tombes carrément dans le toboggan à la verticale.
Ça j'aimerais bien faire. Ah oui, si, j'avais vu, mais non, ça j'aimerais bien faire des trucs comme ça.
Manu, tu as fait ça non déjà? Non, moi j'aime les grands huit.
Plutôt les grands huit, mais pas dans la piscine.
Ah ouais, l'eau, ouais. C'est moins ton truc.
Après, il y a des rivières sauvages, il y a des toboggans. Il y a 8 toboggans. Derrière, on est chacun à un tapis, et puis on part tous en même temps. Et voilà, c'est celui qui va arriver.
C'est le plus grand d'ailleurs d'Europe, tapis de course, ouais.
C'est assez sympa. Bon, alors après, honnêtement, ça va refaire dans 10-15 ans, quoi, parce qu'il n'y a pas tellement de...
Ah ouais, ça dépend des gens, parce que Manu, lui, ouais. Il va tous les ans, tous les deux ans, et il trouve toujours du plaisir.
D'accord. Oui.
Et il faut faire le Silverstar, le Blue Fire, il faut faire le Vaudin, ça c'est bien.
Ouais. Et puis le Voltron, bah, tu vas y retourner bientôt, le Voltron, tu l'as voilà, refaire encore.
C'était pas encore ouvert l'année dernière.
On vient juste d'ouvrir.
On a les prix, peut-être.
Oui, j'allais demander justement le prix d'un séjour.
Ah, t'avais pas noté.
Non, alors Rolantica, à mon avis, c'est dans les 50 euros.
Ils sont allés là-bas juste pour ça.
Non, mais c'était un forfait avec l'hôtel.
Ah oui. Ouais, je dirais 40 euros le Rolantica et peut-être 60-70 euros Europa Park.
Attends,
je peux chercher, je vais chercher.
J'aurais dit 68 euros, oui, une entrée adulte.
Ouais, moi je dirais ça.
Ouais, voilà.
Okay. Non, c'est pas très très cher. Le plus cher, c'est les hôtels et
après, le voyage
et le trajet.
Bah, c'est ce que je veux dire, parce que moi, c'est surtout ça, le voyage en soi.
Le voyage,
oui. Parce qu'au final, on a mixé deux nuits. Deux entrées pour Europa Park, deux jours, plus Rolantica.
Plus Rolantica, ouais.
On a dû payer 700 euros, quoi, à peu près.
Donc, c'est
sachant que
budget.
C'est un hôtel 4 étoiles.
Ouais.
C'est du gros budget quand même. Ouais. Après, il y a d'autres façons de faire aussi. Il y a moyen de prendre la voiture et de sortir du parc. C'est beaucoup moins cher.
Oui, il y a des hôtels
à côté. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on s'est bien fait avoir. Il y avait quand même pas mal d'hôtels à côté.
Oui, alors en sachant qu'avec les hôtels, quand même, on a le parc qui est ouvert une demi-heure avant, avec eux pour nous, avec certaines tas de
choses. Oui, mais ça, c'est ce que tu payes. Oui, c'est toujours ce qu'on te met en avant. Mais toutes les attractions ne sont pas ouvertes, souvent. Donc on te dit, ouais, vous avez 30 minutes avant tout le monde. Ouais, mais bon, c'est pas.
Alors, éviter les jours fériés, éviter les grands ponts.
Ah, bah oui, les périodes de vacances.
Même là, il y avait du monde, hein.
Ouais, alors, ils ont inventé une file virtuelle, c'est assez sympa. En fait, ils te donnent un horaire, en fait.
Ah, mais ça, c'est
et
bien.
Et tu te rends à l'horaire et normalement, tu peux rentrer assez rapidement.
Ça, c'est de plus en plus et ça, c'est vraiment pas mal.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des files spéciales pour les personnes seules.
Exactement.
Voilà, qui peuvent s'insérer après.
Oui, pour remplir certains wagons aussi, oui.
Très bien. Eh bien, merci. Allez, c'est intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
Alors moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé ma chronique prévue pour la dernière émission. On y parlait de JO.
On n'a même pas de jingle pour toi, Bruno.
Non, j'en fais pas.
Oh,
bah non, faut pas exagérer quand même. Comme je n'ai pas eu l'occasion de la faire, donc on va la ressortir du tiroir. Ce soir, on va jouer avec vous et avec les auditeurs sur le chat. Hein, donc tu regardes bien sur le chat si on a des petites choses. Alors la question est simple, il faut retrouver les villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques en fonction de leur année. Alors ça paraît compliqué, mais vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous donner des indices. Hein. Le continent, puis le pays. Alors c'est plus facile donc de trouver après la ville. Allez, on commence avec les JO d'été. Alors en 2000, c'était où?
Athènes.
Non, pas Athènes. En 2000.
Sydney. Finlande.
Sydney.
Oui, Sydney, effectivement, en Océanie, en Australie. Sydney. Bravo. En 1936. En 1936, c'était où?
C'était les derniers avant le.
Alors.
Oui, c'était. Pour moi, c'était Berlin.
Voilà, oui, Berlin. Très bien. Si, voilà, Berlin. En 2008. Hein.
Ah, si. Non, c'est
2008.
Pas Hein? C'était pas Pékin?
Si, Pékin.
Okay, si.
Mais ils sont trop forts, hein.
Bravo.
Manu, alors?
J'ai jamais dit que j'étais sportif.
D'accord, ok.
Il a juste un bel accent.
En 1976.
Oh, non.
Munich.
Non. 76. Alors, Amérique du Nord.
Ah,
Alors, pas Atlanta, non.
Montréal. Ah oui, mais c'était quand il y a eu
au Canada.
Les attentats.
Ouais, chouette. Ouais. C'est fun.
Merci, Olivier. Il y a eu des prises d'otages d'athlètes israéliens.
Ah,
c'était en 76.
C'était à Montréal.
C'était à Montréal.
Ah, d'accord. 2012. C'est plus récent déjà.
Oui.
2012.
Non, j'ai dit conneries.
Oui, non, c'était pas là.
Buenos Aires? Non.
Non,
c'était après.
Alors, c'est en Europe.
Oui, j'ai. Ah.
2012 en Europe.
Alors, dis quoi?
Je le prends beaucoup trop.
En quelle année?
2012. C'est à Londres.
Ah, 2012.
Londres, oui.
C'est à Londres.
Eh ben, excellent. 1980.
Wow.
Alors, attends.
Alors 80, c'est en Europe.
Minsk.
Moscou.
Oui.
Oh,
oui. Mais trop fort. 2024.
Paris.
Paris.
Oui.
Qui va?
Je vais vous avoir.
Est-ce que vous y allez ou pas?
Non. Faudrait être fou.
Pourquoi être fou pour y aller. Bah parce que les prix c'est hors de prix. Enfin, c'est...
Ah ouais, mon père nous a chopé des places.
Ouais. Tu vas voir.
Ouais, on va voir.
Tu
peux encore en gagner sur pas mal de trucs.
Bah oui.
Mais c'est vrai que là, lui, il voulait se dire, bah vas-y, j'emmène mes fils au JO. Donc, on va voir du badminton et on va voir du volleyball de plage.
Chouette. D'accord.
Pas mal.
Ouais, c'est chouette.
Pas de natation, non.
Non, pas de natation, non. Anne Hidalgo a dit qu'il était peut-être un peu fraîche pour l'instant.
On verra s'il y a pas de requin, effectivement.
Ouais.
En 1984.
Los Angeles.
Oh là là. Oh, ouais. T'es très fort.
Mais
bah,
je connais les Olympiques, oui,
2028.
Ouais. Ah, après.
Los Angeles.
Oui. Oh, mais il est trop fort. Mais j'y crois pas. Allez, on finit avec 2032.
C'était pas le Brésil qui avait récupéré?
Non. Alors, 2032.
Alors, dis-nous juste le continent.
En Océanie.
Bah, Sydney à nouveau.
Non. C'est en Australie.
Oui, enfin, merci.
Melbourne.
Non.
Canberra.
Non. Oui, par un B.
Canberra. Non, par un B.
On connaît que Sydney par un B.
Brisbane. Bah, et vous êtes fort. Non, j'avoue que non. J'avoue qu'ils sont très forts. Bon, Manu moins effectivement.
Ah, par contre, les Jeux Olympiques d'hiver là, je sais pas.
Je connais Albertville en 92.
On verra tout à l'heure. C'est le moment du Graal, la pastille qui vous permet de découvrir un film, une série ou des personnages à l'aide d'indices en deux minutes. À vous donc de jouer avec nous en donnant votre réponse sur le site radio-g.fr.
Salut, partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce discours fictif de l'un des personnages de cette série. Serez-vous le plus rapide pour en découvrir le nom? C'est parti.
Mes chers compatriotes, ce soir je m'adresse à vous, non pas en tant que chef de votre gouvernement, mais en tant que citoyen de cette grande nation. Nous vivons une époque de défis et de changements, mais aussi d'opportunités et d'espoir. Nous avons le pouvoir de façonner notre avenir commun, si nous le faisons avec courage, sagesse et générosité. C'est pas House of Cards ici. Comme le disait mon ami Leo McGarry, le chef de cabinet, nous sommes des professionnels du service public. Nous sommes ici pour laisser une trace, pour faire la différence, pour avoir raison. Nous ne sommes pas ici pour être populaires. Même ma femme Abby y va de sa petite phrase. Vous êtes le président des États-Unis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de changer le monde. Mon mentor, le juge Roberto Mendoza, le premier hispanique à la Cour suprême, a raison. La Constitution est un document vivant qui doit être interprété à la lumière des circonstances historiques, sociales et politiques du moment. Et comme je vous le dis ce soir, mes amis, mes frères et sœurs, mes compatriotes, nous pouvons être meilleurs. Nous devons être meilleurs, nous serons meilleurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Amérique, que ce podcast bénisse le Graal. Merci.
Avez-vous retrouvé le nom de cette série de 1999 à 2006, lieu de travail de ses protagonistes? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Il fallait trouver la série à la Maison Blanche. À bientôt pour un nouveau Graal.
Alors autour de la table, Olivier avait trouvé. Bravo.
Ah, je connaissais pas du tout la série. Je pensais à House of Cards au début, mais bon, il a dit non.
La série, c'est The West Wing en fait.
The West Wing en anglais.
L'aile ouest qui est
L'aile ouest de la Maison Blanche.
Ouais. Okay. C'est le bureau d'Oval, je pense.
Toi, t'as pas regardé Manu non plus.
Trop jeune.
Trop jeune, bien sûr. Allez, c'était le Graal avec une série donc que vous pouvez... je sais pas ce que j'ai marqué. Ah oui, d'accord, oui, si c'est bon. On va passer. Allez, vous êtes toujours dans le DMT. Dans un instant, on continuera les chroniques, mais pour l'instant, avec un petit peu de musique. Samedi prochain, c'est la finale de Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Il y a eu des centaines de demandes. Seulement 16 titres ont été sélectionnés. Samedi soir, en fin d'émission, il n'en restera plus qu'un. Le public a voté en mai dernier. Le jury, dont Olivier, va voter dans l'émission. Et donc, on vous invite à écouter tout ça samedi à 21h sur Radio G. Ce soir, on vous propose un des titres sélectionnés, c'est celui d'Angevin. Cet artiste est aussi pharmacien à mi-temps. Il voulait pousser un coup de gueule pour dénoncer son exaspération face au gaspillage des médicaments en France, et ce malgré les pénuries persistantes et les besoins criants dans certains pays défavorisés. Voici Julien Sfer avec « Je jette des boîtes dans DMT ».
Six ans d'études pour me retrouver là, médicalement ne m'a moi, mais au final, je sais pas ce que je fous là. J'aimais bien la chimie orgale, les médicaments, les soirées pharma. Mais Josiane qui me parle de son caca. Oh merde, j'ai pas signé pour ça. Une boîte de Doliprane, ça fait 2,18€. Ton max, c'est fait la malle. En fait, je m'en fous de ta vie. Les douleurs abdominales, fallait pas taper des huîtres. Fallait pas taper des huîtres. Mamie me ramène un sac rempli. Apparemment, y'a plus de papy. Merci madame, je vais faire le tri. Bah non, le tri, c'est interdit. Alors, je jette des boîtes, je jette des boîtes. Donner le bon dosage. Au pire, je dirais que j'étais en stage. Madame faisait vraiment son âge. En plus, j'aimais pas son maquillage. Ça fera gagner quelques thunes à l'état. 1000 balles de traitement, c'est toujours ça. De toute façon, je crois qu'elle le prend pas. Encore des boîtes qu'elle nous ramènera. Tu veux plus de médoc? Bah, faudra payer. T'as la carte vitale? Tu crois t'es illimité? Quoi, tu plains encore? Et tu veux te barrer? Bah, ta carte cassée. Tu sais, encore un sac plein. Un sac qu'on me ramène, c'est le 20e sac.
Voilà, c'était Julien Sfert avec Je jette des boîtes, à retrouver avec 15 autres candidats samedi soir, samedi prochain, donc sur cette antenne à 21h pour la grande finale de Radiovision. Et en parlant de concours, cette année, le Luxembourg était à nouveau parmi donc les participants, hein, c'est ça, il y avait le Luxembourg qui est arrivé. Et tu étais là à Malmö, Manu. Malmö, ça se dit Malmö,
Malmö.
Comment tu dis?
Malmö.
Voilà, au cœur de cette Eurovision. Donc autant dire que les places sont, il y a pas beaucoup de places, hein, parce que c'est le monde entier qui se retrouve. Alors justement, on va voir ça tout à l'heure. Hein. Donc, Manu, bonsoir. On va profiter de ta venue pour savoir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Concrètement, est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, ou est-ce que c'est juste des fans? Est-ce qu'il y a quand même des gens qui font pas partie du sérail de l'Eurovision qui peuvent quand même venir?
Oui, alors je dirais comme ça, à froid, il y a trois grandes catégories de personnes. Il y a les fans, donc de différents pays, qui se voient, on va dire, attribuer les places au niveau de la fosse. Donc là, c'est normalement, c'est distribué par les différentes organisations de chaque pays et qui redistribuent dans leurs fans ou dans leurs membres. Il y a aussi toute une partie après qui va être plutôt, on va dire, des histoires de promotion à la radio ou ce genre de choses. C'est-à-dire que
ils font gagner des
voilà,
places.
Voilà, donc
tout
les
ça.
Places sont soit parce qu'il y a des gros sponsors ou parce qu'il y a la société de télévision, par exemple, ou qui mettent en jeu des places. Donc des gens un peu qui ils y vont, ils avaient pas vraiment envie, ou connaissent même pas, mais bon.
Mais c'est pas des gens qui, on pouvait toujours pas acheter la place, donc.
Et sinon, le reste, donc, peut-être, j'ai aucune idée au niveau de proportion, peut-être un tiers du reste, du coup, pour n'importe qui, c'est pourvu d'avoir de la chance.
Ah oui, faut vraiment avoir beaucoup de chance.
Ah oui, parce que la demande, c'est très rapide.
On a un peu de temps, là?
C'est mondial. Vas-y, pourquoi?
Ramia qui répond à une question en luxembourgeois, juste.
Pour avoir le nom.
30 secondes, puis après, il retraite.
Alors, la prochaine question.
Oui, je sens que là, je vais me faire dégager. Merci.
Non, mais juste, c'est rare quand on entend luxembourgeois à la radio.
D'accord.
À la radio,
donc, le concours dure une semaine, en fait, hein, parce qu'il y a plein de choses. Il y a les demi-finales, la soirée, les répétitions et la finale. Alors, en luxembourgeois, tu me diras après en français. Hein. Est-ce que tu as tout fait, tous les spectacles, toutes les demi-finales, tout ça? T'as participé à tout? T'as vu tout?
Nee, das haut nicht mehr mich, so ein bisschen mehr. Und vielleicht einfach zu viel so gekrascht.
Alors, en fait, je n'ai pas tout fait. J'ai pas fait les répétitions, mais j'ai fait les demi-finales.
Je suis désolé, mais je trouve que, par contre, tu prononces très très mal. Hein. Vraiment. Oh, l'accent est très mauvais. Hein. Oh là là. Ça fait forcer. Hein. Mais bon.
Donc, c'est ça. En français, donc, tu as fait les demi-finales.
En fait, il faut savoir, il existe trois packages. À proprement parler, le live show, c'est le mardi et le jeudi, parce que bon, les Français ils connaissaient pas trop jusqu'à cette année, parce qu'avant les plus petits pays, eux, ils sont obligés de passer par des qualifications. Donc c'est le mardi, le jeudi et la grande finale du samedi. Il y a aussi ce qu'on appelle les historiquement les jury show. Donc ça c'est la veille, c'est-à-dire le lundi.
Les répétitions, tu veux dire?
Oui, la répétition générale où le public vote justement.
D'accord.
Donc, qui ont lieu le lundi, qui ont lieu le mercredi.
Le jury vote
le vendredi. Oui.
Peut-être du public. C'est le jury.
Ah, pardon, oui, jury. OK. Mm. Et encore une autre catégorie qui est le family show, qui a lieu en fait le jour même, donc le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi, mais l'après-midi, en gros, la dernière répétition avant vraiment.
D'accord. Donc ils vendent des places de répétition.
Oui. Alors, avant, ce qui se passait, c'est que quand on était fan ou membre d'un club, on avait un package qui, en gros, ouvrait à tous ces trois choses-là. Mais maintenant, la salle était souvent vide. Et maintenant, vu qu'il y a un engouement qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, augmente. Ils ont séparé les packages parce qu'il y a de la demande, donc comme ça leur fait plus de sous.
Plus de sous.
Voilà.
D'accord. Bah, justement, en parlant de sous, ça coûte combien tout ça?
Cette année, on a eu la chance d'avoir les live shows. Alors, c'est chaque pays hein, qui fixe en fonction.
Le prix. Ah, tu peux te dire que si t'achètes un pays, si t'achètes la place dans un autre pays, t'auras forcément le même prix.
Non. Parce que par exemple, là, cette année, le live show, c'était 700 euros environ.
Oh, putain.
Ah ouais. l'année d'avant, à Londres,
pas
à Londres, mais je vais pas retrouver. En Angleterre, c'était à 900 euros.
Et Liverpool,
Liverpool, exactement.
Ah oui, c'est le pays invitant qui fixe.
Oui, en fait, c'est avec le broadcaster et la salle, le nombre de places disponibles, et puis en fonction qui font venir. Par exemple, quand j'avais été à Tel Aviv, là on n'avait pas pu se permettre, hein, c'était vraiment trop cher. Il y avait Madonna qui était venue aussi. Ça avait coûté plus de 1100 euros.
Ouais, ah oui. Donc à l'époque, t'avais fait quoi? T'avais fait des répétitions?
Non, on avait fait en fait les. Là, on pouvait prendre plutôt la carte, donc on avait fait les live shows pour les demi-finales.
D'accord.
Et la finale, on l'avait regardée dans un village. On avait fait le jury.
Oui, parce que ça, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques. Il y a un village, c'est quelque chose d'assez fermé où vous pouvez. Il y a plein de bars, il y a plein de choses.
Ouais, ça dépend aussi de qui organise. Ouais. Effectivement, donc certains pays ont une notion d'organiser. Par exemple, Liverpool, c'était génial. On sent toute la ville vibrer autour de ça. Donc il y avait un village énorme.
Faut payer pour entrer au village,
non du tout. Non. C'est en fonction en limite des places disponibles.
Ouais. Mais ça va déjà bien se bousculer dans les bars et dans les.
Ça dépend, mais surtout les jours pour la finale. Ouais. Forcément,
c'est la folie, quoi.
D'avoir de la
d'accord.
place.
D'accord. Hein. Donc ça, c'est juste la place. Donc vous imaginez le prix des hôtels.
Après, il faut savoir effectivement que absolument tout augmente.
Sais
que nous, on avait de la chance de trouver quelque chose relativement tôt. Une personne qui n'avait pas eu le temps d'augmenter trop les prix, mais nous avait dit, alors selon elle, qu'une semaine, ça pouvait être loué à 6000 euros.
6000 euros la semaine.
Alors,
c'était un appartement pour 4 personnes. Voilà. Donc, 6000 euros, mais bon, ça pique quand même.
Ça, oui, hein, même pour 4. La bouffe
et
tout ça.
Et après, voilà, il faut manger encore. Ouais. Hein, donc, le transport.
Les transports. Et puis,
imagine. Faudrait réserver une chambre.
Avant les.
Avant de savoir. J'ai une amie qui avait déjà fait ça, ou même des amis qui sont vraiment.
Fans, ils savaient que.
Eux, ils réservent dans plusieurs hôtels, dans plusieurs villes possibles.
Ils annulent.
Je sais que j'ai une amie qui avait déjà fait ça et à la fin l'hôtel a dit ah mais non finalement il y a un problème technique. On va vous retourner vos fonds et on va le louer à quelqu'un d'autre pour 8 fois plus cher.
Bah oui c'est ça.
C'est évident.
Alors autant vous dire que la prochaine fois c'est en Suisse. Donc là, ça va exploser.
Oui. Est-ce qu'ils ont Madonna?
Je sais pas. Mais en tout cas, t'as fait un prêt CTLM, c'est bon pour.
Exactement. Moi, je suis en train de prendre rendez-vous à la banque pour commencer à contracter après la consommation, parce que ça va pas être possible.
Pour en revenir au show de cette année, est-ce qu'il y a eu des mesures spéciales par rapport à l'Ukraine, Israël? Est-ce que toi, t'as ressenti quelque chose au cœur de la fête?
Par rapport à l'Ukraine, non. Par rapport à l'Israël, très clairement, parce que par exemple, ils étaient dans un bâtiment qui était dédié à eux, on va dire, ou la délégation. Pas avec les autres délégations, avoir moins d'un bâtiment un peu plus petit. Et on est passé devant par hasard, on se demande qu'est-ce qui se passe ici, où il y avait la police suédoise qui était là avec les mitraillettes, un peu comme à la gare de l'Est à Paris.
Vigipérate, quoi.
Voilà un peu l'idée, oui.
Ok, d'accord.
Après, ils ont aussi fait, il y avait des manifestations, donc ils ont autorisé les manifestations. Mais par contre, en faisant attention et en ayant un tracé de par où devaient avoir lieu les manifestations pour éviter les débordements, justement. Là, c'était autorisé.
C'était quand même prévu le coup,
Voilà, l'idée, c'était d'éviter les dérapages, donc.
Ouais, complètement.
Alors, je sais pas si cette année vous avez regardé, mais il y a un candidat qui a été éliminé.
Qui a été éliminé.
Et, parce que, alors, c'est pour une raison.
Alors, politique, du coup.
Alors, non, pas politique, justement.
C'était
pas.
Olivier aurait pu en parler, c'était pas Europa Park, c'était Europapa. C'était Europapa, la chanson, c'était les Pays-Bas. Alors, il semblerait en fait, c'est à voir. Il y a une plainte qui a été ouverte auprès de la police suédoise par une caméraman pour intimidation.
Qui aurait été juste menacé.
Ah non, pour ça, oui, d'accord. Oui.
Voilà. Donc, et ça rigole pas. À partir du moment où tu as une plainte, t'es éliminé.
Voilà, il y a une politique de tolérance zéro par rapport aux agressions ou au manque de respect avec le.
C'est ça. Personnel. Donc là, il n'y aurait pas eu d'agression physique, mais il y aurait eu le bras levé ou tout ça.
Dixit.
Alors, on ne sait pas. Plus
quand il y en a qui chantent, c'est limite une agression.
Oui, c'est ça. Oui.
Non, mais tout
s'est
arrêté.
Est-ce que par rapport dans la salle, par rapport à ce qu'on voit à la télé, il y a beaucoup de choses qui bougent.
C'est impressionnant parce qu'il y a une seule scène.
Ouais, donc il faut qu'ils changent tout.
Il y a tout qui est changé en moins de en quelques minutes.
Vous voyez vous les spots qui passent, ce que nous on voit.
Oui, parce qu'en fait il y a des grands écrans qui sont un peu plus hauts, qui s'éteignent systématiquement si jamais il y a un risque de passage de la caméra pour éviter justement d'afficher ou de faire une mise en abîme eurovisionnesque.
D'accord, ok.
Voilà, mais donc on les voit
voir quand même. D'accord. Est-ce que le palmarès de cette année, ça va, c'est celui que vous aviez prévu?
Oui, en gros, oui.
Donc Nemo en premier.
C'était difficile cette année de dire qui serait le premier, mais oui, il y avait la Suisse, il y avait l'Ukraine, il y avait aussi la France.
Et en tout cas, il y avait le Luxembourg aussi. Oui. Tiens, ça donnait ça, le Luxembourg.
T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin. Petite voix, chant de sirène, qui me dit, mais
bien.
J'aime
pas le refrain.
Non. 13e est arrivé.
On regarde souvent les bookmakers. On parle de bookmakers qui parient sur telle ou telle personne. C'est des gens qui sont à l'Eurovision, ça. C'est qui les bookmakers?
En fait, ce qui se passe, faut savoir, c'est en étant membre de OGAE, l'Organisation Générale de l'Amicale de l'Eurovision. Donc, il y en a une officielle par pays. Chaque pays doit aussi organiser un vote en interne et qui est envoyé vers OGAE, donc le grand, et justement qui alimente les votes.
D'accord.
Après, forcément, aussi avec les Anglais ou d'autres nations, il y a aussi des paris qui sont organisés. Donc, forcément.
C'est toujours très juste, c'est impressionnant.
Faut savoir que pour les fans, on va dire, l'Eurovision commence, le début de l'Eurovision, c'est en septembre, quand les premières chansons commencent à être connues. Parce qu'en fait, avant, ils n'ont pas le droit de publier les chansons. Donc, et là où commence, ça n'a pas vraiment de sens de donner un vote, puisque, ou de savoir comment on va se situer la personne ou l'interprète, puisqu'il manque les chansons. Par contre, effectivement, après, au fur et à mesure, ça s'affine. Au fur et à mesure des performances sur scène, de ce qui peut être vu, ce qui est divulgué, ou des représentations, ou de la mise en scène, ces votes vont s'affiner, en fait. Ce qui fait que, généralement, c'est très proche de la vérité.
C'est vrai que Slimane, on l'a bouffé des mois de septembre.
Ah, par contre, il a sorti sa chanson une
fois.
Très tôt, celui-là.
Parce qu'il n'a pas été sélectionné dans un processus comme d'autres pays.
Ok, écoute, merci Manu en tout cas de nous avoir fait vivre de l'intérieur toute cette Eurovision et on va commencer à faire des économies pour la Suisse. Allez, je rouvre mon tiroir moi. Allez, on repart sur les JO d'hiver maintenant.
Aïe.
On y va. En 2022, c'était où?
Juste
en Asie.
C'était à
Sochi.
Non.
Pékin.
En Chine, ouais, Pékin, tout à fait. En 1988. En Amérique du Nord.
Il y aura un moment Atlanta, je pense.
Salt Lake City.
Non,
c'est pas ça.
Alors, c'était au Canada, en 1988.
Vancouver.
Non, Calgary.
Ah oui, c'est vrai.
En 2014. C'était en Europe.
Sochi.
Ouais.
Sochi. Ah oui, Sochi,
bravo,
oui, t'as raison.
Tout à fait. En 1992.
Albertville.
Oui.
Bien.
Ouais, ça...
En 1968.
C'était à Grenoble.
Ouais, très bien. Et en 2026.
Ça sera dans un truc de Corée du Sud. C'est pas en Corée du Sud?
Non, c'est à Milan.
En Italie. Milan, Corée du Sud, oui.
Ouais, c'est à peu près pareil.
Oui, ça va être 4 ans après, je crois.
Moi, Sochi en Asie.
Milan, c'est oui. Pardon, oui.
Allez, c'est à présent l'heure du Graal, mais celui qui nous raconte des histoires de l'histoire. Cette chronique est faite par des intelligences artificielles. On en reparle juste après l'épisode de ce soir, car Radio G vous propose un programme étonnant samedi prochain. Mais pour l'instant, on écoute le Graal de l'histoire. Toute ressemblance avec une situation plus récente de notre histoire n'est bien sûr qu'une coïncidence.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'histoire. Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires, si petits soient-ils. Si vous essayez de vous en servir pour manipuler l'histoire, il est probable que la situation se retourne contre vous et change la face du monde. Nous sommes en 1933. Le système politique allemand est en crise. Rien ne marche et on passe son temps à aller voter pour des gouvernements qui tombent en quelques mois. Pas moins de 3 élections en 2 ans. Un tout petit parti n'avait pas trop la cote. Il était plutôt sulfureux. C'est le Parti National Socialiste. Oui, les tristement célèbres nazis. Il n'avait heureusement que 2 sièges sur 11 et encore, pour des tout petits postes. Devant le rejet du peuple pour les partis modérés, certains politiciens pensent que mettre ce petit parti nazi au pouvoir leur rendrait redevable et leur permettrait de gouverner en sous-main. En janvier 1933, un nouveau chancelier est alors élu. Le quatrième en 9 mois. Il était du parti nazi et s'appelait Adolf Hitler. À vouloir manipuler la politique et jouer avec le feu, les Allemands se sont brûlés, entraînant quelques années plus tard le monde dans le chaos. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
C'était donc le Graal de l'Histoire à découvrir sur Spotify et le site radio-g.fr, rubrique podcast plus. Donc à noter que le 15 juin, samedi prochain, donc juste avant Radiovision, vous allez découvrir un maxi Graal de l'Histoire et ça dure 1 heure et c'est entièrement animé par une IA. Ce sera donc le 15 juin à 20h sur Radio G et voici la bande-annonce.
Radio G vous propose une expérience radiophonique étonnante samedi prochain à 20h. Écoutez la première émission de la station entièrement animée par une IA. 1 heure pendant laquelle une intelligence artificielle parcourt l'histoire de l'humanité pour vous en raconter les anecdotes. Rendez-vous samedi prochain, 15 juin à 20h, juste avant Radiovision pour un avant-goût de futur avec le Graal de l'Histoire. Samedi, 20h.
Voilà, j'aime bien la voix.
Ouais, c'est la voix dure de Téléphone Rose.
C'est la voix sensuelle.
Moi, me fait penser à la SNCF.
D'accord. Oui, le train arrive. Bon, allez, on va finir. Bah, justement, puisqu'on parle d'IA, on va jouer ensemble. Voilà, bah oui. Et avec les JO encore, du coup. Il faut retrouver un sport à chaque chanson. Donc, écoutez bien les paroles. C'est autant d'indices pour retrouver le sport présent aux Jeux Olympiques.
Dans un bateau puissant.
Canoë kayak.
Les athlètes.
Le canoë.
Non.
Avion.
Oui.
Ah, Aviron.
Aviron, très bien. Deuxième.
Quand l'été vient sous le soleil brûlant.
Beach volley.
Non, alors attendez un petit peu. Écoutez bien.
Avec une raquette légère comme un rien. On tape dans l'objet.
Les raquettes.
Qui vole si bien.
Badminton, oui, très bien. Ah, t'en as fait pour ça.
Vol,
vol, petit volant. Allez, suivant.
Dans un ring bien éclairé, deux athlètes prêts à se battre. Leurs poings sont bien bandés. L'enjeu est grand, faut se battre.
Tire l'arc.
La boxe.
Non, c'est la boxe.
Deux athlètes dans un ring, tire l'arc.
Luxembourg, le tir à l'arc.
Moi, j'ai entendu prêt à bander, donc moi, j'ai pensé.
Ah, non,
j'ai,
oui, c'est pas le même sport.
Ah, c'est de l'IA, on est d'accord.
Ouais, c'est de l'IA.
Mais même l'articulation,
c'est de l'IA.
Elle a un accent.
Hein, les chansons, c'est des vraies chansons?
C'est des chansons d'IA.
C'est d'IA, j'ai peur.
Ça va faire un malheur.
On se croira à l'Eurovision, sinon.
Oh.
Suivant.
Sacrilège.
On cherche l'ivresse entre les nuages. On tisse nos prouesses qui va serrer. Les mains s'agrippent à chaque prise.
Oh, ok, escalade sportive.
Très bien.
Cherche la voie.
Cherche la voie.
Allez, le suivant. Autre sport.
Corrida.
Oui.
Vas-y.
Pardon, je vais en
scrim. Ah, escrim.
Ça devrait être pas mal, escrim, à Paris.
Ouais,
le Grand Palais et tout.
Suivant.
Dans une salle remplie de temps, on cherche à soulever.
Oh, la voix, elle est dépressive.
Le corps se tend, les muscles pleurent.
Hérophilie.
Non. Ah, quoi?
Ouais.
Mais, hey.
T'es
en folie, toi, aujourd'hui.
T'es en forme.
Olivier, t'es en grande forme.
Moi, la plupart du temps, je ne comprends pas ce qu'elle dit.
Ah ouais,
mais vraiment. Hein.
En fait, c'est de l'IA qui a un accent français, mais même pas français.
C'est ça.
Suivant.
Sur un tapis où s'affrontent les âmes braves. De guerriers sans armure,
non.
Breakdance.
Non.
Ah,
judo.
Judo.
La lutte.
Oui.
Ah, la lutte, bien vu.
Eh oui. Allez, le dernier.
Sous le ciel ouvert, où la rue respire, on glisse et on vire sous le soleil ancien. Les roues qui fredonnent une chanson d'acier. Un ballet urbain sur le béton glacé.
BMX.
Tourne.
Alors non. Allez.
Plane ton
le béton.
Verre.
Le
Skate, ouais, ok, d'accord.
Solin, Solos. Ouais.
C'est cela. Bravo, en tout cas. Vous êtes très, très fort.
Hein. On sait.
Ok. Bah, tiens, du coup, on va revenir au 11, s'il te plaît, pour la technique. C'est le moment de la chanson improbable. Il s'agit du groupe mayonnais Rookin, qui aborde avec poésie, mais assez crûment, des sujets qui peuvent être tabous. Écoutez bien les paroles. Donc, très improbable. Il est question ici d'activité manuelle.
Seul dans leur salle de bain, pas de témoin, je fais l'amour à la main. Elle se marre, Héloïse et Victoire, au fond de leur plumard, et en patience attendent ma semence. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, ouais, pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas le mien. Faire un enfant sans père, ça coûte plus un ovaire. C'est si facile, moi je me branle utile. Je tombe en miettes, en chaude gouttelette, au fond d'une pipette. Aux amoureuses, je donne cette eau précieuse. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, ouais. Pour faire grandir un gamin, un homme qui ne sera pas le mien. 2 millilitres d'humain, pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas le mien. A plus, petit étard, attention au départ, au courant d'air et rentre chez ta mère. Tu rassuré que les hétéronormés soient pas seuls à en chier. Santé, bonheur et force à vous les sœurs. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, ouais. Pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas mien. Je fais l'amour à la main, 2 millilitres d'humain, pour faire grandir un gamin, un monde qui ne sera pas le mien.
Voilà, ça vous donne des idées, hein? Voilà, faire l'amour à la main, donc c'était Rookin. Voilà, nos Mayennais. Oui. Allez,
merci à la Mayenne.
Merci à la Mayenne. Donc c'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Olivier.
Merci.
Merci Sandra. Merci Joe.
Merci.
Qui réalise cette émission. Et merci Manu d'être venu exprès du Luxembourg.
Merci pour l'invitation.
Yeah. Merci Bruno.
On dit merci à nos luxembourgeois.
Ah. Merci Phil Mols.
Merci, ouais, effectivement.
Merci.
Bon, en tout cas, il y a un petit peu d'ambiance en France en ce moment. Tu auras des choses à raconter à ton retour. Dans un instant, vous allez retrouver Génération Sport. On va se quitter avec notre chanson de fin. Dans 15 jours, c'est la dernière émission de DMT. Après 2 ans de pouvoir pour vous, auditeurs, ce sera vraiment la dernière. Clap de fin, mais on vous réserve plein de surprises. Donc on se retrouve dans 15 jours ou quand vous voulez sur le site radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir.
Vous venez d'écouter DMT, une émission de Radio G. Pendant 1 heure, vous avez pu voter et même chatter. C'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans 2 semaines. Ce soir, les chroniqueurs ont vraiment tous eu peur que vous actionniez le buzzer pour leur plus grand honneur. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans 2 semaines.
chier en direct ou en différé. En podcast ou en FM, on fait comme on aime. Alors oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais il y aura d'autres mardis. N'ayez pas trop de peine, on se retrouve dans 2 semaines. Si vous avez aimé jouer avec le crâne, écoutez les podcasts, c'est pas mal. Que soit le jeu de découverte ou de l'histoire, c'est toujours chouette. Mais c'est fini pour aujourd'hui.